Okapi. Okapi service avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui du transfert de l'eau de la rivière Oubangui vers le lac Tchad. Menace ou opportunité? En ligne, nous avons le professeur Raphaël Chimanga. Il est directeur du Centre de recherche des ressources en eau du bassin du Congo. Professeur Raphaël, bonjour.
Bonjour, monsieur Tapir.
C'est plutôt jeudi. Bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations par rapport à cette question des transferts de l'eau vers le lac Tchad. Appelez pour participer au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de la solitude. Comment vaincre la solitude? Vous vous sentez seul? Vous avez l'impression d'être de vous sentir isolé. Comment s'en sortir? Peut-être ça peut être après la perte d'un le décès d'un être cher, ou après un divorce, ou une rupture, voilà, qui est arrivée dans votre vie. Eh bien, comment s'en sortir? On en parle dans la deuxième partie de l'émission avec des psychologues. Des questions et préoccupations, n'hésitez pas, le standard est déjà ouvert. Composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Mimi Kindou à la mise en onde. Marcel Ngombo coordonne cette émission, que réalise Tati Mapoukou. Au micro, Jody Daniel Kachama. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Okapi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Okapi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Le projet d'alimenter le lit du lac Tchad par l'eau douce de la rivière Oubangui est toujours d'actualité. Approvisionner le lac Tchad avec les eaux de l'Oubangui va permettre aux populations du Tchad, du Cameroun, du Niger et du Nigeria d'avoir accès à cette ressource vitale pour leur survie, affirment certains experts. Pour d'autres, cela risque de causer un déséquilibre au niveau des écosystèmes aquatiques de la RDC. Alors, ce projet de transfert d'eau est-il une opportunité ou une menace pour la République démocratique du Congo? On en parle dans cette émission. Nous avons en ligne le professeur Raphaël Chimanga. Il est directeur du Centre de recherche des ressources en eau du bassin du Congo. Le professeur Raphaël, encore une fois, bonjour.
Monsieur le journaliste.
Nous avons également en ligne le professeur Asser Nzovu, expert en droit de l'eau. Professeur Asser Nzovu, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Kachama.
Bienvenue dans cette émission. La première question, professeur Raphaël, est de savoir pourquoi le Tchad veut absolument avoir obtenir les eaux de la rivière Oubangui.
Monsieur le journaliste, merci beaucoup. Je voudrais un peu aborder cette question qui préoccupe notre nation en ce moment. Je voudrais l'aborder d'une façon globale. C'est comme ça que nous pouvons bien comprendre les enjeux qui sont autour de cette question de transfert d'eau du bassin du Congo vers le lac Tchad. J'ai dit que lorsque nous analysons la situation actuelle et la situation future de la distribution de l'eau en Afrique, Il y a une image qui se dessine clairement, c'est celle des pénuries de l'eau dans les régions au nord du bassin, au nord et au sud du bassin du Congo, et de l'abondance de l'eau dans le bassin du Congo. Alors, ces contrastes actuels devraient être amplifiés par les conditions futures de changement climatique. Alors, dans ce contexte, je vois la RDC et les pays du bassin du Congo qui ont un devoir naturel, je dis bien un devoir naturel, et devraient se préparer à répondre aux demandes extérieures en vue d'aider les pays en difficulté à faire face à la situation des pénuries de l'eau qui est en train de se dessiner. Alors, ceci peut se faire par le moyen de transferts directs ou indirects de l'eau. Je dis bien le transfert direct ou le transfert direct de l'eau. Alors, ici, pour répondre à la grande question de l'opportunité ou menace, je vois une grande opportunité pour la RDC de promouvoir la coopération régionale en Afrique et renforcer sa position géostratégique. Une autre grande opportunité alors qui s'ouvre est celle pour la RDC de booster son économie et créer de l'emploi en développant les services des ressources en eau. Nous avons plusieurs services des ressources en eau que nous pouvons développer et répondre à la demande extérieure de l'eau. Alors, il y a aussi la menace potentielle, la menace est réelle, en lien avec les impacts inhérents à tout projet de transfert direct de l'eau. Mais avec le développement technologique actuel, c'est que ces impacts peuvent être minimisés en faisant recours, bien entendu, à la technologie d'utilisation efficiente de l'eau. Alors, je dois saisir cette opportunité pour souligner que les transferts de l'eau d'un bassin ou un autre est une pratique courante de gestion de l'eau. C'est une pratique courante lorsqu'on aborde les questions de gestion de l'eau. Elle peut se faire soit à l'échelle plus petite, l'échelle locale, ou une grande échelle, par exemple d'un pays à un autre, d'une région à une autre.
D'accord.
Actuellement, le plus grand problème que nous avons, ce n'est pas celui de transfert d'eau comme une pratique de gestion, mais c'est plutôt les problèmes de transfert d'eau avec les projets de transaquois.
Bien.
Là, je veux que les gens me comprennent très, très bien.
D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accueillir...
C'est le problème avec...
Professeur Raphaël.
Les transferts d'eau sous le format projet Transacqua, qui est inacceptable dans ce format actuel et qui est à mesure de pouvoir engendrer des conséquences incalculables sur le devenir des services des ressources en eau du bassin du Congo.
Bien, on va donner la parole au professeur Assia Nzovu, expert en droit de l'eau. Professeur, est-ce que c'est on peut envisager le transfert des eaux des Lubangi vers le Tchad, alors que ici même dans notre pays, bien qu'on affirme qu'il y a l'abondance d'eau, de l'autre côté il y a la pénurie, mais nous savons que dans notre pays toute la population n'a pas accès à l'eau potable comme il se doit. Dans notre pays, est-ce que on peut envisager ce transfert alors que la demande intérieure n'est pas satisfaite? Professeur Assia Nzovu.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je commence par saluer l'intervention de mon prédécesseur, le professeur Chimanga, que je salue en passant. En fait, il a justement donné la synthèse sur les opportunités, les menaces sur cette question des transferts d'eau. Je soutiens pratiquement ce qu'il a souligné comme élément d'opportunité, parce qu'évidemment, les ressources en eau constitue une richesse naturelle qu'il faut exploiter. Et quand on l'exploite à bon escient, ça donne de l'emploi, ça donne de la valeur ajoutée à l'économie, ainsi de suite, booster les services. Mais aussi, sur le plan politique, ça nous permet de nous faire des amis, donc de créer la coopération, les amis avec les États qui sont en difficulté. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut encourager. Mais aussi, n'est pas minimisé, les menaces sur les autres usages de l'eau comme l'énergie, l'agriculture, la navigation, la biodiversité. Mais évidemment, pour minimiser ces menaces, la loi avait déjà prévu quelques mécanismes pouvant nous permettre de minimiser ces mécanismes, d'où l'imposition de l'étude d'impact environnementale et pour que justement on sache quels sont les problèmes que nous pouvons avoir si jamais on s'est lancé dans les projets de transfert d'eau. Et cela, les formats des transferts aussi doivent être bien étudiés. Est-ce que doit-on aller dans le sens de reconstituer l'écosystème aquatique du lac Tchad? Ben, cette hypothèse-là, moi, je trouve ça très hasardeuse. Mais si la question se pose dans le sens d'aider les autres, donc les pays qui sont dans les besoins, à avoir accès à l'eau, en ce moment-là, on va étudier des technologies appropriées qui permettent justement d'envoyer la quantité d'eau qui ne crée pas de problème à la République démocratique du Congo, qui ne crée pas de problème aux autres pays qui partagent les bassins du Congo, afin que ceux-ci aient accès à l'eau potable. Donc, c'est pour dire que, du point de vue juridique, la question avait déjà été envisagée par les législateurs de 2015, qui a prévu l'étude d'impact environnemental, mais aussi la consultation du peuple lorsque il s'agit de transférer ces ressources en eau en dehors du territoire national. Ce n'est pas que la question doit s'arrêter au niveau des autorités publiques, mais la loi prévoit, l'article 53 de la loi de 2015, prévoit que l'on puisse consulter le peuple par voie de référendum pour que le peuple puisse se prononcer s'il faut
sur
ou
la question. Oui.
Sur la question.
Alors, professeur Acer, est-ce que ces études d'impact environnemental ont été déjà réalisées?
Oui, justement, j'ai entendu mon prédécesseur aborder la question sur le projet qui est en gestation. Personnellement, je ne suis pas tombé sur un document d'étude d'impact bien ficelé quant à ces sujets-là. Mais du moins, c'est ça qui doit être fait comme préalable avant que l'on se prononce sur la question des transferts d'eau ou pas.
Bien. Professeur Raphaël, qu'en est-il des études des études d'impact environnemental par rapport à ce projet de transfert des eaux?
Le journaliste, je dois d'abord saluer mon collègue, professeur Hassan, pour sa brillante intervention. Je dirais que c'est là même le nœud du problème, c'est que il y a eu deux volets du projet Transaqua. Il y a d'abord le premier volet qui avait des études qui avaient été conduites sur la rivière Ubangi. Alors là, c'était avec la société CIMA de Canada. Ils s'étaient limités à faire des études d'impact environnemental seulement au niveau de la République centrafricaine. Ils n'ont pas fait cela au niveau de la RDC. Mais disons que ce volet-là n'a pas été pris en considération. Le premier volet du projet de transfert de l'eau à partir de Lubangui n'a pas été pris en considération et les gens même du lac Tchad ne veulent pas entendre ce volet-là. Il y a un autre grand volet, c'est celui du projet Transaqua, n'est-ce pas, avec qui est bien entendu soutenu par les Italiens, et aussi il y a l'entreprise Power China qui est impliquée là-dedans. Alors, c'est ce grand projet qui compte prendre environ 100 milliards de mètres cubes d'eau par an du fleuve Congo pour alimenter les lacs Tchad, avoir un canal sur environ 2400 kilomètres pour alimenter les lacs Tchad, pas seulement les lacs Tchad, mais les pays du Nord. C'est un projet-là qui nous concerne actuellement et pour lequel les études d'impact n'ont pas été réalisées.
Oui.
Et pour lesquelles les gens qui participent dans le projet pour des discussions ne sont pas des Congolais, on n'implique pas les Congolais, on n'implique pas les ressortissants des pays membres du bassin du Congo. C'est là la question.
Bien, on va comment est-ce qu'on peut faire un tel projet sur les eaux du Congo sans impliquer les experts congolais?
Monsieur le journaliste, moi, depuis longtemps, j'insiste que nous devons aborder cette question dans sa globalité. C'est vraiment un problème. Le problème surgit comment lorsque nous sommes en train d'aborder la question des transferts de l'eau du bassin du Congo d'une façon isolée.
D'accord. Professeur, permettez.
C'est le problème que nous avons eu et que nous allons continuer à voir lorsque nous abordons la question d'une façon isolée. Nous devons aborder cette question dans une stratégie globale de gestion durable des ressources en eau. C'est cette stratégie-là qui va faire en sorte que
professeur, nous pouvons voir évaluer, professeur Raphaël.
S'il vous plaît, monsieur le journaliste.
On va accueillir un auditeur et je reviens à vous tout à l'heure. Nous parlons du transfert de l'eau, des eaux de la rivière Oubangui vers le lac Tchad. Est-ce une menace ou une opportunité? Alors, on a suivi qu'il faut qu'il y ait d'abord des études d'impact environnemental. Le peuple doit être consulté au travers du référendum pour enfin décider si cela doit se faire ou pas. Des questions et préoccupations à composer le 081-890-6394. On va accueillir tout à l'heure Safari depuis Higa Barrière.
Écho du développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes des solutions aux problèmes qui affectent la planète, c'est dans Écho du développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30, en rediffusion le samedi à 13h05.
Bien, nous parlons du transfert des eaux de la rivière Oubangui vers le lac Tchad. Est-ce une menace ou une opportunité pour la RDC? Safari, vous êtes à Higa Barrière. Bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à M. Lévité, bonjour à tout le monde.
Quelle est votre question?
Oui, moi, personnellement, je peux dire que je suis contre ce projet. Hein. Je suis contre ce projet parce que vous savez bien que le fleuve Congo est aussi alimenté par cette rivière-là. Alors, si on parvenait à transférer une partie des eaux de cette rivière pour aller alimenter ailleurs, moi, je suis certain que le fleuve Congo on pourra perdre son débit, hein, car le débit du fleuve Congo fait aussi une partie de sa valeur. Alors, la question que je vais poser, ça veut dire par rapport à ce projet, si réellement le gouvernement parvenait à accepter le transfert de ces eaux vers le lac Tchad, alors la population congolaise pourra profiter comment pour ce projet. Merci, bonne journée.
Bien, merci. Alors, professeur Asernzo, vous, d'abord parlons des opportunités. Safari vient de demander, qu'est-ce que la population congolaise pourra bénéficier de ce projet-là? Quelles sont les opportunités qu'il y a pour la RDC?
Merci beaucoup. Avant d'aborder la question des Safari, vous m'excuserez, je voudrais revenir sur la question d'études d'impact et souligner que les études d'impact constituent en même temps les miroirs pour la procédure sur les plans du droit. C'est-à-dire que si les études d'impact démontrent que ce projet va avoir de l'impact non seulement sur les eaux du Congo comme telles, qui concernent la République démocratique du Congo, mais aussi les autres pays, la procédure à suivre est différente parce qu'en ce moment-là, il faut aussi impliquer les organes de coopération, notamment la Commission internationale du bassin du Congo, Oubangui, s'engage pour que cette commission puisse intervenir dans la procédure, dans la mesure où il faudra notifier cette décision, ainsi de suite, pour qu'elle contacte les autres pays qui seront également concernés. Mais si les impacts ne concernent que la République démocratique du Congo, en ce moment-là, c'est la République démocratique du Congo seule qui a la responsabilité de décider sur la question. Alors, s'agissant de la question de M. Safari, évidemment, il dit qu'il est contre le projet de transfert. Ça, c'est son point de vue. Nous n'allons pas discuter sur son point de vue. Mais le projet a évidemment des opportunités que nous venons de souligner.
Parce lesquelles?
À ce jour, la République démocratique du Congo dispose d'abondantes ressources en eau, même si la population n'en bénéficie pas. Et ces eaux sont parfois, à mon avis, gaspillées dans la mesure où on ne les exploite pas. Mais si on peut exploiter ces eaux, du point de vue économique, on va avoir de la création de l'emploi. ça va faire entrer quelques devises au pays. Et donc, ça signifie que, avec l'emploi, avec un peu d'argent que cela peut générer, la population peut se retrouver dans la mesure où cet argent peut servir à résoudre d'autres problèmes que nous rencontrons dans les pays, notamment rendre opérationnels les services de l'eau là où on n'a pas accès à l'eau. Donc, dire qu'il n'y a vraiment pas d'opportunité, non. Moi, je pense qu'il y a une opportunité, mais qu'il faut exploiter prudemment en tenant compte des menaces qui sont réelles et qui doivent être éclairées par une étude d'impact sérieuse.
Professeur Asser, ça veut dire que ces transferts-là, ce ne sera pas gratuit. Le Tchad va payer de l'argent à la RDC et puis ce projet va générer de l'emploi pour les citoyens congolais.
Naturellement, on ne peut pas. Comment on va donner de l'eau gratuitement comme ça? C'est une richesse. Il faudra qu'on définisse les modalités. D'ailleurs, c'est comme ça que le professeur Chimanga dit que cette question doit être traitée dans sa globalité. C'est-à-dire, on ne doit pas aller de manière isolée, voir les aspects économiques, les aspects socio-culturels, les aspects
environnementaux
de la question, tout ça. Donc, si dans une vision multidisciplinaire, on associe les personnes ressources qui doivent réfléchir sur la question pour que chaque aspect soit pris en compte, je crois que la RDC ne sortira pas perdante dans cette affaire. Elle pourra sortir régaillardie.
Professeur, depuis qu'on parle de ce projet, est-ce que les experts ont été déjà mis autour d'une table et se sont déjà réunis pour discuter de ce projet dans sa globalité, comme vous le dites?
Bon, personnellement, je n'ai pas été au courant de réflexions des experts. Je crois que mon collègue l'a dit. La RDC, généralement, n'est pas très intéressée sur cette question. En fait, pas très intéressée, je voulais dire. La RDC n'est pas très impliquée sur cette question. Est-ce qu'il s'agit d'un problème de la coopération au niveau politique, au niveau des décideurs, qui n'implique pas les experts congolais pour que la question soit vraiment prise en charge, étudiée correctement? Je crois que l'autorité politique doit être sensibilisée à se saisir de cette question et à réunir au niveau interne les experts et à les mettre sur le projet pour qu'eux aussi aient droit au chapitre.
Oui, sinon, parce que à un certain niveau,
discuter.
Oui, on a l'impression que les autres experts des autres pays concernés se réunissent, ils font des réunions, ils réfléchissent. Et de notre côté, il n'y a pas aussi d'initiative de ce genre-là. On va accueillir l'ingénieur Michel Ouyumbu de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Jobi.
Bienvenue dans cette émission. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce projet de transfert des eaux de Lubangui vers le lac Tchad?
Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez, Monsieur Jobi. Je salue toutes les interventions de deux professeurs, des éminents chercheurs que nous avons payés sur la question de l'eau, et je suis très fier d'eux. Mais j'ai quand même un petit souci parce que ce projet de transfert de l'eau, Monsieur Jobi, ne date pas d'aujourd'hui. C'est un vieux projet qui date de plus ou moins 49 ans. Et je suis désolé de constater que nos éminents chercheurs que nous avons payés attendent qu'on les remette sur une table, alors que la société d'ingénierie Bonifica S.A., qui a été à la base de cette idée, qui est une société d'ingénierie italienne, n'a pas été mise sur la table par les autorités italiennes. C'est en tant que société d'ingénierie, ils se sont mis à réfléchir sur le problème qu'il y a dans le monde, dans leur secteur, et ils ont lancé l'idée. Mais malheureusement, nous, 49 ans après, nous attendons que les autorités viennent nous mettre sur une table pour discuter sur une idée. Ce que je trouve inefficace. La preuve, c'est que 49 ans après, l'autorité n'a pas trouvé intérêt à mettre les professionnels ou les acteurs du secteur sur une même table pour discuter du sujet. Pourquoi les professionnels sont-ils en train de se plaindre au lieu de former, par exemple, quelque chose comme Task Force pour essayer d'influer? Pourquoi ne pas proposer une autre alternative à ce projet si celui-ci ne nous semble pas bon? Nous, à notre niveau, nous estimons, par exemple, qu'au lieu de transférer des centaines de milliards de mètres cubes d'eau sur le bassin du lac Tchad, il y a une deuxième alternative qu'on peut exploiter.
Laquelle?
C'est celle de transférer l'énergie électrique à nos amis qui sont dans le bassin du lac Tchad. Pourquoi ne pas construire une grande usine de traitement des eaux de l'océan Atlantique juste à côté d'eux et retraiter ces eaux-là et les déverser sur le bassin du lac Tchad. C'est aussi une autre alternative. Cette alternative de transférer de l'énergie. Évidemment, les gens diront que traiter les eaux de l'océan pour les déverser et les transformer en eau douce, c'est un processus qui est coûteux. Bien sûr, coûteux parce que ça demande beaucoup d'énergie. Mais nous avons beaucoup de mégawatts que nous sommes en train de dissiper naturellement sur au niveau de l'embouchure du fleuve Congo. Pourquoi ne pas lancer la grande idée de construction de toutes les phases de grands barrages d'Inga qui nous restent et de faire bien sûr une autoroute énergétique parce que le projet
ingénieur Michel Oyumbu, est-ce que ce projet pour vous est une opportunité ou c'est une menace?
Les opportunités, il y en a, même si on transfère de l'énergie, même si on transfère de l'eau, il y a des opportunités dans tous les cas. Mais le problème, c'est d'étudier quelle est l'alternative qui nous donne le moins d'impact environnemental possible. C'est à ce niveau-là que se situent les débats. Mmh. Parce que les débats, les opportunités, il y en a partout. Mais c'est aujourd'hui que nous puissions transférer quelques mégawatts d'énergie à nos amis du bassin de Lac Tchad, ou leur transférer quelques mètres cubes d'eau. Il y a des opportunités dans tous les cas. Pourquoi ne pas lancer les deux idées? Pourquoi ne pas étudier d'une manière comparative les deux projets et voir celui qui est le plus rentable dans notre pays? Et au niveau du pays, pourquoi ne pas lancer ces grandes idées avec des task forces qui vont travailler au lieu d'attendre, croiser les bras et attendre l'initiative de l'État qui ne vient pas? C'est un peu ça ce qui me dérange.
D'accord. Merci, ingénieur Michel Oyumbu. Professeur Chimanga, vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Je salue l'intervention de l'ingénieur Michel. C'est que aujourd'hui, ce n'est la Tchad qui est en train de demander de l'eau, mais ce n'est pas seulement le lac Tchad. Il y a aussi le pays du bassin du Nil qui sollicite l'eau du bassin du Congo. Il y a aussi les pays de l'Afrique australe qui sollicitent l'eau du bassin du Congo. Alors, quelle est notre stratégie pour répondre à toutes ces demandes? C'est ça. Donc, moi, ça me fait très mal aujourd'hui que les gens, nous sommes en train de nous concentrer sur un seul axe du problème. Transfert de l'eau vers le lac Tchad. Ce n'est pas seulement le lac Tchad. Donc, au début, j'ai donné un peu la carte actuelle et future de la distribution de l'eau en Afrique. C'est qu'il y aura la pénurie et la RDC et les pays du bassin du Congo ont le devoir naturel de pouvoir répondre aux sollicitations extérieures, puisque la RDC et le bassin du Congo ont le deuxième plus grand fleuve du monde après celui de l'Amazone, qui a environ, et on est en train de déverser plus de 41 000 mètres cubes, qui est un module annuel pondéré par an dans l'océan. Et c'est là que le professeur Hassan est en train de dire qu'il y a du gaspillage. Il faut voir ce que nous faisons de l'eau que nous avons, du volume disponible. Je vais vous dire, messieurs les journalistes, que jusqu'à présent, la RDC n'utilise pas plus de 5% de son volume total d'eau disponible. Et qu'est-ce que nous en faisons? C'est ça. On ne doit pas déverser toute l'eau dans l'océan. Et c'est là que je suis en train de dire que je reviens encore. Si nous sommes ici, c'est pour apporter des idées qui vont contribuer à la stratégie ou bien à la politique de gestion de l'eau dans notre pays. C'est que nous devons aborder la question dans sa globalité. Je reviens à la préoccupation sur les initiatives qui avaient été réalisées au niveau de la RDC. En tant qu'experts, chercheurs, professionnels, nous nous sommes réunis. Je rappelle qu'en 2014, nous avions constitué une grande commission sur cette question de transfert de l'eau vers le lac Tchad. La commission était sous l'égide du ministère de l'Environnement. Moi, personnellement, tu vous parles, j'avais piloté la sous-commission hydrologie. Mais la grande commission était pilotée par le professeur Kassongonoubi. Alors, nous avions élaboré des termes de référence pour conduire les études et les études multidisciplinaires. Jusqu'à présent, ces termes de référence sont quelque part et il n'y a aucun financement. Vous savez, conduire ces études, ça demande le financement. C'est pas quelqu'un qui va sortir l'argent de sa poche.
Et le financement,
le financement du gouvernement.
Et le financement est de quel ordre? On peut avoir le niveau, les infos, pardon. Est-ce qu'on peut savoir combien ça demande pour faire cette étude-là?
Bon, ça doit être évalué, bien entendu, monsieur le journaliste. Alors, je dis, en 2014, nous avions travaillé, nous avions élaboré les termes de référence qui avaient été présentés au gouvernement, au ministère de des Affaires étrangères. Après, jusqu'à présent, ces termes de référence n'ont pas été utilisés. En 2018, nous sommes présentés à la présidence avec l'ancien président. Nous avions abordé la question avec son équipe de l'environnement. Nous sommes passés plusieurs fois au Conseil économique et social. Nous avions formulé des avis. Bien entendu, les avis qui sont en train d'être préparés pour être transmis au gouvernement, et certains avaient déjà été transmis au gouvernement. Donc, je crois qu'il y a la part du gouvernement et la part des individus, des chercheurs. C'est que les chercheurs, au niveau de la RDC, ont fait leur travail. Leur travail de sensibilisation, leur travail des études. C'est pas dire que les chercheurs... Nous avons fait des études, nous avons des données. Mais il faut un cadre pour que nous puissions valoriser ces données, nous puissions émettre des avis. Je souligne encore que il n'y a pas que les problèmes de transfert de l'eau. Ce problème est devenu une distraction pour notre pays qui détourne l'attention ou bien qui veut dédouaner l'État congolais de la gestion catastrophique ou bien chaotique du secteur de l'eau. Nous sommes en train de le voir. Si vous partez sur le fleuve Congo,
oui,
on dénombre à peu près de 2000 cas de morts, de décès par an sur le fleuve Congo, avec des embarcations vraiment qui sont inadéquates.
De fortune, oui.
Avec le potentiel hydroélectrique que nous avons, la région du bassin du Congo est la plus sombre de la planète. Vous trouvez? Et nous avons de la terre, nous avons de l'eau en abondance. Nous ne savons pas cultiver toute l'année, nous dépendons de la pluie. Vous trouvez un peu les questions qui doivent nous préoccuper, en plus de celles régionales qui nécessitent le transfert de l'eau pour ravitailler le lac Tchad, pour répondre aux questions de pénurie. C'est pourquoi j'insiste, monsieur le journaliste, et c'est que vous devez aussi nous aider. Vous devez nous aider à pouvoir aborder cette question d'une façon globale. Tant que nous allons aborder cette question d'une façon isolée, pour dire que transférons ou pas, ce n'est pas le seul problème que nous avons au niveau de la RDC. Ce n'est pas seulement le seul problème. Nous avons un problème d'accès aux services améliorés de l'eau, eau potable, assainissement, navigation, irrigation et drainage, développement de l'hydroélectricité, ce sont là les services, le développement industriel, la transformation industrielle.
D'accord.
Nous sommes dotés des ressources naturelles, nous devons les transformer, nous devons développer l'industrie. L'eau est là. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Ce sont les réelles questions que nous voulons que nous puissions, pour lesquelles nous voulons les débats. Nous voulons un cadre stratégique. Tant que nous allons aborder ces questions d'une façon isolée, nous n'allons pas nous en sortir.
Bien, professeur, on va accueillir Platini Mbombo de Mbandaka. Nous parlons du transfert des eaux de la rivière Oubangui vers le lac Tchad. Vous avez des questions et préoccupations. Composez le 081-890-63-94.
L'actualité en profondeur sur Radio Capice et dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Bienvenue à ceux-là qui viennent de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Au Capi Service, nous parlons aujourd'hui du projet de transfert des eaux de la rivière Oubangui vers le lac Tchad. Est-ce une menace ou une opportunité? Platini Mbombo, vous êtes en Mbandaka. Bonjour.
Je dis bonjour, bonjour les victimes, je salue tout le monde.
On vous écoute.
Merci beaucoup, Jody. Bon, je n'ai pas beaucoup à dire, mais justement, je voudrais seulement avoir un peu d'éclaircissement par rapport à ça. Ce projet-là, je ne sais pas si l'invité qui est censé nous expliquer un peu davantage les avantages de ce projet-là, ça va nous amener à quoi? Et aussi, je voudrais quand même avoir aussi l'idée si la modalité soit de répartition. Ça va commencer comment? Et si on, je parle de l'île de Lubangi, je crois que c'est dans l'Équateur, là où moi je suis. Et je voudrais justement avoir qui est censé réellement faire aussi ce travail-là. Donc, je voudrais quand même avoir un peu l'idée si l'invité peut nous quand même éclaircir par rapport à la thématique d'aujourd'hui.
Bien, Moïse Chako Ochudi nous a écrit sur Facebook, il dit « Nous avons été toujours menacés et victimes de nos propres richesses naturelles. Vraiment, est-ce que c'est une malédiction d'être riche dans la vie? Nous avons presque tous aidé dans ce pays, mais quant à la rivière Ubangi, jamais. Là, il faudra d'abord marcher sur nos eaux et ceux de nos ancêtres. » Professeur Asser Nzovu, vous avez la parole.
Je continue à saluer les interventions de mon collègue qui a justement démontré que les chercheurs, pour rencontrer d'abord la préoccupation de l'ingénieur Michel, les chercheurs que nous sommes, nous travaillons. Nous ne nous plaignons pas comme il a pensé. Nous travaillons parce que nous avons suffisamment d'idées, nous avons des publications que nous lançons sur les marchés, justement sur cette question de transfert d'eau. Mais dans un pays organisé, les rôles sont répartis. Et donc, pourquoi nous avons un ministère d'environnement? Pourquoi nous avons un gouvernement? C'est justement pour que chaque organe endosse ses responsabilités à un niveau donné. Donc, si les chercheurs travaillent, il faut qu'il y ait un courroie de transmission, il faut qu'il y ait une coopération au niveau de l'autorité politique, ainsi de suite, pour que nous puissions effectivement récolter les fruits de notre travail. S'agissant de l'intervention de Platini, qui estime qu'il faudra qu'on lui explique les avantages et les inconvénients ou les modalités de ces projets, évidemment les projets du point de vue de la RDC, comme on l'a dit, les opportunités. Mais nous avons souligné qu'il y a des opportunités. Comme on vend les minerais, mais c'est comme ça que nous pouvons vendre aussi de l'eau, si on doit l'expliquer de manière très simple. Donc, on peut aussi vendre de l'eau et avoir de l'argent, parce qu'on en a en abondance. Le professeur Chimangala a expliqué. Alors, s'agissant des modalités, les modalités ne peuvent pas être inventées, elles sont prévues par la loi. Alors, ces modalités dépendent de ce que les impacts ne concernent que la RDC ou concernent aussi les pays voisins. Si on élève l'option à travers les études qui seront faites, en ce moment-là, on peut définir la procédure à effectuer. S'agissant de l'intervention de M. Moïse, qui estime que c'est une malédiction d'être riche, oui, malédiction, ça c'est lui qui pense, mais que pour lui, il faudra marcher sur nous avant qu'on transfère les eaux de Lubangi. Bon, c'est aussi son point de vue, je n'en discute pas, mais moi, mon problème c'est que à quoi ça sert d'avoir suffisamment de ressources en eau dont on ne bénéficie pas? C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que ça sert vraiment de laisser les eaux être déversées comme ça dans l'océan sans que nous, on puisse en profiter? Les autres, ils ont senti les besoins. C'est du lac Tchad, ils sont dans les besoins. Et nous, on a les ressources à nous. Est-ce qu'il faudra vraiment dire non, on ne peut pas, et où il faudra étudier les modalités qui puissent aider ces gens-là à avoir de l'eau et puis nous aussi en bénéficier? Parce que finalement, sur le plan international, il y a la question de la solidarité qui s'impose. Et les ressources en eau demain, si jamais il s'avérait comme la pénurie est déjà en train de se dessiner, que on doit absolument, absolument aider les autres parce qu'ils sont dans les besoins. Mais si nous, on ne prend pas des mesures, mais les autres vont décider à notre place et nous allons subir les décisions que les autres prendront sur nos ressources, malheureusement. Parce qu'en ce moment-là, ça va être une question humanitaire, ça va être une question qui touche les vies humaines, et donc la communauté internationale ne laissera pas ces questions-là comme ça. On va décider sans nous. Voilà pourquoi il est important, c'est que nous puissions réfléchir, prendre des décisions que nous puissions assumer correctement pour que demain, nous ne puissions pas subir les dictats. Voilà un peu, de manière globale, ce que je peux dire sur la question.
Bien. Professeur Chimanga, un internaute nous a écrit, il s'appelle Emina Mwanda, il dit que cette opération est une menace pour l'équilibre des écosystèmes dans notre pays. Si on décide de vendre l'eau au Tchad, les eaux des Lubangi au Tchad, on risque de connaître un déséquilibre au niveau des écosystèmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus, professeur Chimanga?
Je vais développer dans mes recherches la notion de débit des réserves, la notion qui est mal comprise, c'est que il y a le débit minimum que doit utiliser l'écosystème pour ses besoins de maintenance. C'est cette notion-là de débit minimum ou bien débit des réserves que j'avais même suffisamment exploité lors de mon master, mes études de master, qui doit être appliquée et qui doit même contribuer à la formulation de la loi sur l'eau. C'est que nous devons arriver à déterminer les débits, donc le volume d'eau, la hauteur d'eau nécessaire pour maintenir l'écosystème. Et puis, lorsque nous avons établi cela, nous pouvons aller maintenant dans différentes allocations, dire que après cette catégorie de l'environnement, nous pouvons maintenant allouer tel débit à la population pour les besoins domestiques. Nous pouvons alors aller au niveau de la troisième catégorie, peut-être pour la navigation. C'est la priorisation des usages de l'eau, bien entendu. Et nous pouvons maintenir tel débit ou bien tel tirant d'eau pour la production hydroélectrique pour l'industrie. Alors, pour le moment, c'est la difficulté que nous avons, nous ne sommes pas encore arrivés à établir cette priorisation des usages de l'eau. C'est pourquoi peut-être nos interlocuteurs ont des difficultés à pouvoir appréhender que si on transfère un tel volume de l'eau, on peut encore continuer à conserver les écosystèmes, on peut encore continuer à pouvoir fournir d'autres services de l'eau. Donc c'est une notion que nous devons mettre en œuvre, implémenter dans notre pays, dans notre région, et qui doit constituer l'élément de la loi de l'eau dans notre pays.
Bien. Professeur Hassan Zovou, cela veut dire que si nous vendons de l'eau aux Tchadiens, ça veut dire que même nos poissons ainsi que les autres animaux qui sont au niveau du lac Oubangui vont se retrouver de l'autre côté.
Justement, c'est comme ça qu'on parle des études d'impact. D'abord, les modalités de prélèvement. Comment on va prélever cette eau-là pour que ça atteigne les lacs Tchad? Ça, c'est la première question qu'on doit déterminer. Parce qu'il ne faut pas oublier que, du point de vue des écosystèmes, il peut y avoir des espèces qui ne vont pas être bien accueillies du côté du lac Tchad. Alors tout ça doit être étudié. On ne va pas prendre l'eau, les poissons et tout ce que nous avons comme écosystème aquatique et envoyer. Non, ça doit être filtré. D'où justement, comme le souligne le professeur Chimanga, la question d'étudier et de voir qu'est-ce qu'il faut transférer et comment faut-il les transférer. C'est à travers ces deux questions-là qu'on peut déterminer ce qui est faisable.
Bien. Donc, l'ingénieur Michel nous a dit tout à l'heure que c'est un projet qui date de 49 ans, mais il n'y a jamais eu une task force mise en place pour réfléchir, pour faire une étude d'impact environnemental. On dit, il faut toujours des études 49 ans après. Ces études n'ont jamais eu lieu parce qu'il n'y a pas de financement, le gouvernement n'a rien donné. Alors, professeur, on a l'impression qu'on est en train de tourner en rond.
Ben, on est en train de tourner. Allô?
Oui, allez-y, professeur Asser.
Oui, mais on est en train de tourner en rond par rapport à quoi? Parce que lorsqu'un projet est initié, il y a quelqu'un qui initie ce projet et qui veut atteindre un objectif par rapport à son projet. Alors, de tous les projets dont on parle là, personnellement, je n'ai pas encore vu un projet d'initiative de la République démocratique du Congo. Ce sont les projets qui viennent d'ailleurs. Ce sont les autres qui sentent les besoins, qui initient leur projet. Mais puisque ce projet-là va impliquer la République démocratique du Congo, ça concerne une ressource qui se trouve en République démocratique du Congo. C'est comme ça que nous disons que le gouvernement doit prendre à bras le corps cette question-là et impliquer ses experts au niveau interne pour voir dans quelle mesure on peut apporter de la lumière pour la réalisation de ces projets-là. Alors, quand il dit qu'on tourne en rond, je ne sais pas, les initiatives, il faut les prendre, nous, en tant que chercheurs, nous les prenons, nous les proposons à qui des droits, à l'autorité qui est censé, n'est-ce pas, collaborer dans la mesure où c'est l'autorité qui doit signer tel et tel accord, ainsi de suite. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette préoccupation.
Bien. Professeur Chimanga, quel est votre avis à ces sujets?
Ok. C'est comme mon collègue, le professeur Antien, l'a dit, c'est que, bon, bien entendu, les initiatives de transfert des eaux, c'est pas notre pays qui demande de l'eau, ce sont d'autres pays qui demandent de l'eau. Alors, ils devraient aussi contribuer, s'ils veulent bien, ils devraient contribuer à financer les études d'impact, mais en cette matière, les études d'impact doivent être conduites par les Congolais, les experts congolais qui le font déjà, mais ça doit être approfondi.
Professeur, je peux poser la question de savoir, est-ce qu'il faut-il demander à tous ces pays qui sont concernés par ce projet de mettre aussi des moyens pour des études d'impact environnemental au niveau de la RDC?
J'ai dit, il doit y avoir un cadre de collaboration pour la gouvernance, la gestion des eaux transfrontalières. Ce cadre-là pose un peu de problème pour le moment. C'est au sein de ce cadre plutôt que nous pouvons aborder les questions de financement des études d'impact environnemental.
Bien. Je m'en vais lire rapidement quelques d'autres réactions des auditeurs par rapport à cette question. Il y a Maître Edmond Bokolo qui nous a écrit depuis Mbandaka. Il dit que ces transferts risquent d'avoir des conséquences sur le fonctionnement du barrage Linga, qui du reste alimente l'Afrique, ce qui produira des méfaits sur la vie socio-économique du pays. Professeur Chimanga.
Inga, c'est pas, le barrage d'Inga n'a pas besoin d'un débit turbiné de 41 000 mètres cubes. C'est vraiment très, très moins que ça. Alors, c'est là que je reviens encore. Je voudrais que nos auditeurs comprennent que la question des gestions est essentielle. Les éléments des gestions sont essentiels. C'est que, il y a ce que nous pouvons allouer aux autres, ce que nous pouvons allouer aux autres usages et ce que nous pouvons garder pour l'environnement, ce que nous pouvons garder pour l'hydroélectricité, ce que nous pouvons garder pour l'industrie, la navigation. Et cela doit se faire dans un cadre d'études, bien entendu.
Bien, on retient qu'il faut d'abord des études d'impact environnemental avant de décider quoi que ce soit. Merci professeur Raphaël Chimanga, je rappelle que vous êtes directeur du Centre de Recherche des Ressources en Eau du Bassin du Congo. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup monsieur le journaliste et merci collègue professeur Raphaël.
Professeur Hassan Zovou, on va conclure avec vous. Je rappelle que vous êtes expert en droit de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? 49 ans après, on continue à parler de ce projet. Il n'y a jamais eu des études, il n'y a pas de financement. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire, professeur?
Oui, par rapport justement à 49 ans, donc le projet, comme nous l'avions dit, ce n'est pas le projet de la République démocratique du Congo, c'est le projet des autres qui sont dans les besoins. Mais par contre, la RDC, moi je dis que la RDC a avancé sur cette question, dans la mesure où nous n'avions pas un cadre juridique assez étoffé pouvant nous permettre de discuter de cette question. Mais depuis la loi de 2011 qui pose les principes généraux, les principes fondamentaux sur la gestion de l'environnement, ainsi que la loi de 2015 sur la gestion des ressources en eau. Nous avons un cadre juridique qui permet justement d'encadrer les études d'impact. Qui doit faire ces études d'impact? Comment il faut les faire? Tout ça est déjà défini dans la loi. Mais maintenant, question que l'autorité qui est abordée sur cette question, ou à qui on sollicite justement la mise en œuvre de ces projets, d'intéresser les personnes ressources capables de mener ces études.
Professeur Hasser, permettez, nous allons accueillir Madame Hermine depuis Gbadolité. Bonjour Madame Hermine.
Je dis bonjour professeur.
On vous écoute.
Je voulais apporter ma modeste contribution relative à cette question.
Oui.
Pour moi, je me dis que cette question constitue à la fois une opportunité dans la mesure où, depuis que nous sommes enfants, on nous a toujours enseigné que le Congo constitue une réserve mondiale. Et quand on parle du concept de réserve, c'est pour être utilisé quand il y aura manque ou pénurie quelque part. Comme je vais un peu aborder dans le même sens que le professeur qui l'a invité, c'est que c'est aux Congolais de s'organiser. Parce que moi, je ne comprends pas à quoi l'eau nous servirait si ça ne nous profite pas. Alors que, excusez-moi avec ma voix, alors qu'aujourd'hui, le Congo a beaucoup de ressources. Et nous voyons comment est-ce que les ressources du Congo sont dilapidées par nos voisins. Alors, il est temps que les Congolais se remettent en question et puissent réfléchir ensemble pour voir comment capitaliser cette opportunité. J'ai parlé du risque dans la mesure où, si jamais le Congo, sur la table des négociations avec le pays demandeur ou bien le pays en besoin, ne s'est pas, au fait, tablé par rapport aussi à ses attentes, alors, comme d'habitude, nous allons encore perdre sur la table des négociations. Voilà pourquoi il nécessite maintenant au Congo une diplomatie efficace, mais aussi avec les experts en la matière, afin de pouvoir capitaliser cette opportunité.
Bien, merci Madame Hermine de Gbadolité. Professeur Hassan Zovou, expert en droit de l'eau, merci également à vous. Excellente journée et à la prochaine.
À la prochaine, merci.